Il ne s'agit pas en fait d'indulgence. C'est la tradition, mais c'est aussi ce que les règles prévoient. Vous savez que dans le cadre de l'acte additionnel qui a été adopté en 2012 sur les sanctions à prendre contre les États, il y a tout un régime de sanctions au niveau de la CEDEAO. La première sanction quand il y a coup d'État, c'est une sanction de principe, c'est la suspension de l'État, de toutes les institutions de la CEDEAO. Et ensuite s'engagent maintenant les négociations avec les responsables de l'État. Et si la CEDEAO et les responsables de l'État arrivent à une solution sur la transition, on se limite à ces sanctions jusqu'à ce que les règles soient respectées par ceux qui ont opéré le changement anticonstitutionnel de gouvernement, et une fois que ces règles sont appliquées, on les lève. Mais s'il n'y a pas d'application des règles concernant la transition, là, il y a un deuxième régime qui s'applique, qui est celui des sanctions ciblées, qui s'intéresse particulièrement à certains responsables influents du régime en place. C'est quand toutes ces mesures-là auront été inefficaces que maintenant les sanctions économiques arrivent. Donc, ce qui se passe actuellement avec le Burkina Faso, c'est dans l'ordre naturel des choses.
Donc la junte à Ouagadougou ne jouit pas d'un privilège quelconque de la CEDEAO.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez bien lu le document, il dit que bon, les sanctions de principe ont été adoptées et les négociations avec les autorités qui ont pris le pouvoir, ils ont rencontré plusieurs de ces dirigeants-là, que ces négociations-là vont dans la bonne direction. Et donc, on attend de voir quels vont être les résultats de ces négociations pour voir si on va appliquer un deuxième régime ou si c'est simplement, si on rend, par exemple, les militaires ont pris une décision qui paraît aller dans la direction de ce que veut la CEDEAO, ils ont rétabli la Constitution. Alors, le rétablissement de la Constitution veut-il dire qu'ils vont respecter les règles que la CEDEAO a pour que même les dirigeants de la transition ne soient pas des militaires? Ça, c'est les négociations à venir qui vont nous dire si cela est vrai ou pas. Parce que si ces mesures sont adoptées, si par exemple le président de la transition n'est pas militaire, les responsables du Parlement de la transition ne sont pas militaires, on peut valablement lever les sanctions en attendant l'organisation d'élections pour retourner dans un ordre constitutionnel normal. Donc, on est toujours dans la lignée de ce que la CEDEAO a prescrit comme règle.
Il y a aussi le cas du président déchu, Roch Marc Christian Caboret, dont la CEDEAO a réitéré sa libération. Combien de temps la junte devrait prendre pour s'exécuter?
Alors, je pense que il y a eu des rencontres à un très très haut niveau parce que le président de la commission lui-même s'est rendu à Ouagadougou en compagnie des représentants de l'UNOA. J'imagine que lors des conversations, on s'est entendu sur un échéancier. Ils ont même permis à cette délégation de rencontrer le président Kaboré, qui semble être dans de bonnes conditions. Et donc, je pense que c'est un package qui est en train d'être négocié. Et si ces négociations aboutissent, je pense que M. Kaboré peut facilement recouvrer la liberté. Et cela s'est passé dans d'autres pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi au Mali, cela ne pourrait pas se faire. N'oubliez pas que même pour le régime guinéen, où les gens n'ont pas encore finalisé les négociations avec la CEDEAO, bon, Alpha Condé a pu obtenir la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger sous les auspices de la CEDEAO. Donc, là également, je pense que c'est dans le cadre d'une manifestation de la bonne volonté des autorités de la transition pour indiquer que, bon, sont pas contre le président, mais bon, qu'ils veulent, ils se donnent le temps de réfléchir pour voir comme quelle sorte de réserver. La CEDEAO attend et de voir comment les choses vont évoluer.
La CEDEAO, fragilisée par les coups d'État à trois pays, le Burkina, la Guinée, le Mali, il y a eu une tentative en Guinée-Bissau. Comment vous voyez l'avenir de l'organisation et la légitimité des sanctions que l'organisation est en train de prendre vis-à-vis de ces pays-là?
Alors, c'est vrai que quand on regarde l'actualité de la sous-région, on a déjà quatre coups d'État, on a eu trois coups d'État en moins de cinq mois et un quatrième a échoué le week-end dernier, amenant un peu le nombre de coups d'État dans la sous-région depuis 1963 à 60 coups d'État. Mais à y regarder de près, on peut dire que ce nombre de coups d'État, en tout cas cette multiplication de coups d'État n'a aucun impact sur la viabilité de la CEDEAO en tant qu'institution et autres, et que si on observe par exemple le cas du Mali, les sanctions que la CEDEAO a pu poser ont vraiment poussé les militaires à regarder de plus près. Et aujourd'hui, je sais que et cela, c'est même maintenant de notoriété publique, que les militaires reviennent à de meilleurs sentiments et que l'on s'achemine même vers une transition de deux ans. Donc, c'est vous dire que malgré tout ce qu'on a dit de la CEDEAO, de ses difficultés, le système qu'il a mis en place semble en tout cas montrer un certain nombre d'effets. Maintenant, les coups d'État, c'est vrai, ça existe, mais regardez les pays dans lesquels les coups d'État ont eu lieu, c'était tous pratiquement des pays extrêmement fragiles, extrêmement divisés, pour ne prendre que la Guinée et le Mali. Tout le monde s'attendait à ce que dans ces deux pays-là, il y ait des coups d'État. Peut-être que le reproche qu'on pourrait faire à la CEDEAO, c'est de n'avoir pas justement pris les devants pour prévenir ces situations-là, c'est-à-dire mettre beaucoup de pression sur les gouvernements civils d'alors, Alpha Condé d'une part pour renoncer à son troisième mandat et le régime de Ibeka pour des élections pratiquement truquées qu'il avait organisées et qui ont conduit à la situation qu'on connaît. On peut critiquer la CEDEAO pour ça et je pense d'ailleurs que si je m'en réfère à ce que le président Talon a dit lors de sa visite la semaine dernière à Dakar, que des initiatives sont déjà engagées au niveau de la CEDEAO pour remettre de l'ordre dans les normes et les procédures de manière à ce que les crises d'antan ne se répètent plus. Ça, je pense que c'est maintenant. Comment éviter les coups d'État? Mais ça, c'est tout un programme parce que dans les cas du Mali, dans les cas de la Guinée et même du Burkina Faso, l'État est dans une telle situation de déliquescence que l'on voit mal comment ce que la CEDEAO peut vraiment faire pour éviter ce genre de situation. Maintenant que dans tous ces pays, on est en transition, essayer de tout mettre en œuvre pour que la transition se passe de la meilleure des façons, qu'on revienne à des régimes démocratiquement élus et qu'on travaille pour restaurer un État viable, pour restaurer l'autorité de l'État et faire en sorte que les sociétés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'appareil d'État qui est en crise, ce sont ces sociétés-là qui ont implosé au Mali, au Burkina Faso et dans une moindre mesure en Guinée où pendant plus de deux ans, mais rien ne marchait. Donc c'est ce travail-là qu'on veut voir c'est ce chantier plutôt qu'on veut voir commencer dans ces pays-là et vraiment aider ces pays à recoudre le tissu social, à faire en sorte qu'un État viable puisse s'installer et que l'organisation, une fois certaines de ses règles modifiées, que l'organisation maintenant joue plus dans la prévention que dans la recherche de solutions une fois les crises sont annoncées. Parce qu'apparemment, ces crises-là sont parfois difficiles à être géré par la CEDEAO pour le moment.